L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct sur Radio Larzac. Et oui, c'est le retour de votre émission d'actualité sur nos ondes, le troisième jeudi du mois à midi. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Julia. Salut Julia.
Salut.
Et de Nicolas Technique. Recoucou.
Coucou.
Dans cette émission, on est sur les routes. On va parler de projets routiers contestés en raison de leur caractère écocidaire et souvent antisocial, vendus par les autorités avec des arguments de croissance économique ou encore de nécessité de désengorger les routes déjà existantes. C'est un sujet d'actualité depuis que la mobilisation contre le chantier d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres a pris de l'ampleur, suite notamment aux grèves de la faim de Thomas Braille et autres militantes et militants qui ont permis de médiatiser cette lutte. Une mobilisation est prévue ce week-end, le 21 et 22 octobre. En fin de mission, on retrouve l'interview d'un militant de la coalition de lutte contre la 69. Et juste avant, on écoute Julien Carretero, qui a réalisé avec Marion Pouessel Castres-Toulouse, autoroute électrique, logistique et dermocosmétique, une création sonore documentaire dont il va nous parler et qu'il va jouer aussi un live aux 20 ans de Radio Larzac le 4 novembre prochain. Mais pour commencer, Julia va nous présenter une chronique pour faire le point sur la 69 et sur cette lutte. Et ensuite, on part vers Montpellier, pas très très loin de Millau, où il y a un autre chantier d'un projet routier. C'est le périphérique au nord de l'agglomération qui fait l'objet d'une opposition citoyenne. Et une manifestation a eu lieu le week-end dernier, donc nous sommes aussi dans l'actu et nous serons au téléphone avec Anna pour en parler. Et donc c'est parti pour ce voyage sur les routes, mais pas en autoroute. Et donc, bienvenue Julia dans cette émission.
Merci.
Tu nous as préparé donc une chronique pour faire le point sur ce chantier de la 69.
Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, attachez vos ceintures car on prend la route de la controverse avec le projet de la A69. C'est une histoire vieille de plus de 30 ans. Et oui, c'est dans les années 90 que la A69 était à sa genèse. Imaginez à l'époque, pour améliorer la connectivité et répondre à l'augmentation du trafic, aujourd'hui on peut se demander si ce projet n'est pas obsolète et si ses conséquences sur l'environnement et la société ne sont pas des limites à la création d'une telle infrastructure. Pour refaire un point sur la portion A69 entre Toulouse et Castres, c'est une vieille promesse du désenclavement d'un territoire. En quelques chiffres clés, cette autoroute elle représente 53 km, nécessitant l'utilisation de 300 hectares de terres agricoles pour sa réalisation, l'abattage de milliers d'arbres dont certains centenaires et multicentenaires qui sont essentiels à la biodiversité du territoire. Et tout cela a un coût dérisoire de 450 millions d'euros pour la mise en place de cette infrastructure. On peut donc se poser la question, quels bénéfices en tirera-t-on réellement ? Un gain de temps minime de 15 minutes par rapport à la route actuelle, la RN126, au prix de 16,74 € aller-retour pour ses usagers. Ce projet semble être écocide et archaïque de ce point de vue. Néanmoins, les élus œuvrant à sa bonne réalisation, eux, insistent, arguant dernièrement que 36% des travaux seraient déjà réalisés et qu'un retour en arrière n'est donc pas envisageable. Ils promettent un renouveau économique, ils mettent en avant la création d'emplois, la stimulation des échanges commerciaux. Selon eux, la A69 serait un levier crucial pour la croissance économique et la connectivité du territoire. Mais selon quoi ? Des études réalisées il y a plus de 20 ans, lorsque les priorités ne se passaient pas sur le même curseur ? Du côté de l'opposition, les arguments ne manquent pas pour évoquer l'absurdité de ce projet. Oui, une nouvelle portion d'autoroute en 2023. Lorsqu'on se demande comment remodeler notre mobilité pour qu'elle soit plus douce pour l'environnement, ça peut apparaître comme un projet ubuesque, dont les prétendus avantages ne seraient qu'en fait une illusion. De plus, les véritables conséquences de cette construction seraient désastreuses. On parle là, quand même, de la détérioration de l'habitat de la biodiversité, de la destruction des écosystèmes, et ce, sans oublier le largage des tonnes de particules fines dans l'air au moment de la construction. Alors, pour l'instant, les grèves se multiplient, les manifestations et les projets alternatifs pullulent, et c'est pour ça qu'il faut être présent ce week-end, le week-end du 21-22 octobre, entre Toulouse et Casmazamé, afin de rejoindre Ramdam sur le Macadam, porté par les collectifs La Voie est libre, Les Soulèvements de la Terre et bien d'autres. Le collectif La Voie est libre y évoquera d'ailleurs son projet alternatif, un projet portant sur l'aménagement des routes déjà existantes, de la création d'une véloroute, de réhabilitation des voies ferroviaires sur le territoire. Donc si vous êtes curieux, c'est ce week-end que ça se passe, ou sur leur site internet, où vous pouvez être signataire de la pétition contre la A69 et découvrir le projet. Un projet qui me semble plus être de mise à l'époque du réchauffement climatique.
Merci beaucoup, Julia.
Pas de quoi.
C'était donc ta première chronique, il y en aura peut-être d'autres dans cette émission.
Pourquoi pas.
Et bien donc, je pense qu'on est en ligne avec Anna, donc du collectif SOS Oulala. Salut Anna.
Bonjour.
Donc votre collectif est en lutte contre un autre chantier, cette fois-ci du côté de Montpellier, le chantier du périphérique au nord réalisé par le département donc, de l'Hérault. C'est le lien, donc la liaison intercantonale d'évitement nord de Montpellier. Mais d'abord, j'aimerais te faire réagir à la chronique qu'on vient d'entendre. Donc j'imagine que vous êtes aussi mobilisé, bien sûr, contre ce projet dans l'Hérault, mais aussi contre la 69 et que vous serez présente ce week-end.
Oui, absolument, parce qu'en fait, notre collectif fait aussi partie d'une coalition nationale qui s'appelle la Déroute des routes, qui rassemble 55 collectifs de lutte contre des projets routiers partout en France. Et du coup, évidemment, on se soutient et on se soutient, on est là, on est présent aux événements des uns et des autres.
Et donc, votre collectif SOS Oulala porte le nom d'un oiseau rare de l'Hérault, dont l'existence est menacée par le déboisement qui a déjà commencé pour le tracé de cette nouvelle route donc, de contournement de Montpellier. Le déboisement, c'est aussi un problème sur le chantier de la 69. Et votre collectif donc, est né avec ce nom pour s'opposer spécifiquement à ce projet du lien.
Oui, absolument. Alors, c'est un oiseau imaginaire qui pourrait symboliser presque le crash de l'espèce humaine. En fait, oui, nous, on est mobilisés. On s'est créé il y a 4 ans quand le déboisement de la première partie du chantier a commencé. Et on s'occupe exclusivement de cette question du périphérique. Et c'est déjà un énorme morceau parce que les élus y tiennent beaucoup. Les populations changent, le temps change. Mais les élus restent incrustés dans une époque et dans une vision des choses largement dépassée.
Donc oui, comme pour la 69, il n'y a pas beaucoup de citoyens et citoyennes qui veulent de ce projet, de ce contournement.
Oui, on a fait en fait un énorme travail de sensibilisation parce que évidemment, quand le projet est présenté par le département de l'Hérault, ils sont extrêmement mensongers et sur les effets en théorie positive de fluidification du trafic, qui sont un mensonge en fait, hein, parce qu'aucune route n'a jamais réduit les embouteillages de toute l'histoire des routes, hein, ça n'a jamais marché. Ça fait qu'elles sont saturées entre 3 et 10 ans, ça c'est ce qui se passe avec toutes les routes, tous les périphériques, enfin aucun périphérique n'a pas d'embouteillage, je pense qu'on a tout ça dans les yeux, et que du coup, et les objectifs, enfin voilà, les effets positifs de la route sont inventés, et par contre les effets négatifs sont largement passés sous silence, et notamment par exemple en termes d'urbanisation, parce qu'en fait une route ça appelle toujours l'urbanisation, et donc nous on a très peur que tout le nord de Montpellier se construise parce que tout d'un coup l'accès aux camions est possible. Évidemment on ne présente pas ça aux gens, donc en 2014 l'étude d'impact, quand il y a eu l'enquête publique, les gens étaient favorables parce qu'ils avaient le choix en fait entre ce tracé ou un autre, mais jamais, il ne se pose jamais dans les enquêtes publiques la question de pas de tracé du tout et pas de route du tout. Et donc, après 4 ans de travail acharné de sensibilisation, la population nous rejoint largement, à tel point que la consultation publique a été contre le projet à 82%.
Oui, et d'ailleurs...
Donc, comme la 69, en fait. Ouais.
Oui, c'est ça.
C'est à peu près les mêmes proportions.
Exactement, et tu as parlé d'urbanisation, et c'est vrai que Montpellier est une ville qui souffre d'embouteillage, parce qu'il y a un nombre croissant d'habitants. J'ai lu que la population a doublé entre 1964 et 2004, et cette population, en fait, habite de plus en plus loin du centre-ville, et il y a peu de transports en commun, donc c'est ce contournement, si on veut... reprendre les arguments des pouvoirs publics. Ils disent que ça sert pour faciliter le transit entre les deux autoroutes, donc la 9 et la 75 qui bordent la ville. Mais effectivement, on peut aussi dire que bien, s'il y a des nouvelles routes, elles seront encore plus embouteillées, comme tu le disais. Donc vous répondez quoi à ces arguments-là?
Déjà, en fait, qu'on prend le problème à l'envers. En fait, c'est... parce que justement, sur l'attractivité de Montpellier, en fait, c'est pas magique que Montpellier attire toujours des nouvelles personnes. En réalité, c'est une politique expansionniste de la métropole qui, pour avoir le statut de métropole, se doit d'avoir un taux d'attractivité minimum. Et du coup, qu'on soit une ville, non pas à l'image de ses habitants, mais à l'image des habitants qu'elles aimeraient attirer, essentiellement une classe sociale assez élevée, en fait. qui viendraient de l'extérieur. Et du coup, déjà, on peut se poser la question de, du grossissement des métropoles en termes social et écologique, hein. Enfin, puisqu'en fait, c'est des questions de politique publique, ça ne se fait pas tout seul. C'est parce que Montpellier a fait une publicité gigantesque en France entière, dans la France entière pour attirer des gens et tout ça, et ça au détriment de toutes les villes autour d'elle, autour de comme Nîmes, Sète, Béziers, qui sont des villes qui petit à petit se désertifient. En fait, Montpellier polarise toute l'activité, et sur la question de l'urbanisation, en fait, et même dans son enceinte métropolitaine, en fait, les autres villages qui sont à côté, le problème des routes, en fait, c'est des axes structurants, c'est qu'en fait, à partir du moment où on fait un accès très rapide, où justement, comme tu le disais, on peut aller habiter toujours plus loin de son lieu de travail et faire un trafic pendulaire toujours plus grand, et ben en fait, les villages qui se trouvent du coup reliés, en fait, ils sont un peu asservis à la métropole. Tout d'un coup, nous, c'est ce qu'on constate, des villages qui avaient une vie de village, où les gens pouvaient travailler dans leur village ou dans les villages limitrophes, il y avait des cafés, des commerces, des lieux de sociabilité, des services publics, deviennent des territoires asservis à la métropole et deviennent des villages dortoirs. Donc en fait, nous, ce qu'on propose, c'est de répartir déjà la population dans les différents villages, dans les différentes villes autour, plutôt que de tout concentrer dans la métropole. Et après, l'artificialisation, en fait, on a un problème écologique majeur, c'est on ne peut pas juste laisser faire, en fait, ou encourager. Il faut qu'on prenne des décisions fortes là-dessus, parce que en termes d'absorption de gaz à effet de serre, en Montpellier, on n'a plus d'eau, en fait. Il y a déjà des villages... du coup, notamment le long de la 750, Montarnon, toute la région de Montarnon a explosé avec la création d'un nouvel axe routier. Et là, on n'a plus d'eau, donc ils ont suspendu tous les permis de construire. Pardon. Et donc, on a un vrai problème d'urbanisation, que notre territoire est un territoire écologiquement fragile qui ne pourra pas supporter, en fait. Donc, ça veut dire qu'on va construire pour 10 ans ou 15 ans et qu'après, les gens vont partir. Et après, sur la question de l'autoroute, donc voilà, on s'oppose à une urbanisation massive du nord de Montpellier. Effectivement, c'est un choix politique. Et ensuite, sur la question des embouteillages, oui, ça va relier les autoroutes. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, Montpellier est sur la diagonale européenne du fret de marchandises qui part de l'Espagne et qui va jusqu'en Hollande. Et pareil, sur l'axe... Pays de l'Est, Italie, Marseille, et ça remonte parce que en fait, l'axe de Lyon est complètement saturé. Donc la 750 est un itinéraire très favorable pour les camions. Et en fait, voilà, on se pose la question, est-ce que vraiment c'est intelligent aujourd'hui, dans la situation climatique dans laquelle on est, de faire des investissements publics extrêmement chers pour faciliter et rendre encore plus rentable l'économie du transport de marchandises longue distance? Ça, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose aussi. Et ensuite, les périphériques sont le lieu privilégié pour construire des zones commerciales et des entrepôts logistiques. C'est l'économie du dernier kilomètre. Donc vraiment, c'est pareil. Est-ce que vraiment on a envie d'entrepôts Amazon qui se construisent toujours plus à côté des périphériques? Voilà, en fait, c'est toute une économie avec une route, parce que c'est un accès vers un nouveau territoire et une liaison plus rapide entre des infrastructures industrielles. Est-ce que vraiment, voilà, c'est des choix de société et nous, on a d'autres choix.
Oui, tout à fait. Et tu as parlé, par exemple, de la proposition de repeupler les villages autour de Montpellier qui deviennent des villages dortoirs. Et ça fait penser aussi aux propositions que Julie a citées à propos de la 69 du collectif La Voie est libre, qui a proposé notamment de remettre en route, enfin, de... réhabiliter voilà des gares près du tracé de l'autoroute ces collectifs là ont fait aussi un effort pour faire un pas disons vers les autorités pour chercher le dialogue. Est-ce que c'est le cas aussi à Montpellier? Est-ce que vous avez été entendu par les autorités ou pas vraiment?
Non, les autorités sont complètement sourdes, en fait, c'est un problème. Le président du département pense que son projet est à la pointe de la modernité. Et le président de la métropole de l'Hérault, Monsieur Delafosse, lui, il est dans cette logique expansionniste, en fait, complètement de la métropole. Et il nous a dit quelque chose d'un peu fou, en fait. Il nous a dit, donc, déjà, une métropole doit avoir son périphérique. Alors, à Montpellier, en réalité, c'est le troisième périphérique. Hein. C'est juste que... Après, ils sont noyés sous l'urbanisation. Et ensuite, parce que c'est un modèle qui est remis en cause de plus en plus, hein, la question du périphérique, à Grenoble et à Paris... Et ailleurs dans le monde, on est en train de les fermer. Alors en France, du coup, on se pose la question de les végétaliser. Il y a des autoroutes urbaines qui ont été fermées, notamment beaucoup en Asie. Et en fait, à ça, il nous a répondu, oui, ils peuvent végétaliser leur périphérique parce qu'ils en ont un. Et là, je me suis dit, ce type est un grand malade, en fait. Mais en fait, non, j'ai compris. C'est qu'effectivement, par exemple, le périphérique parisien a fait son office d'urbanisation. Du coup, effectivement, maintenant, on peut le fermer. Et du coup, ils ont besoin du périphérique de Montpellier pour urbaniser. Et ensuite, effectivement, ils pourront, comme l'avenue de la Liberté, réfléchir à d'autres usages là-dessus. Mais sur la question de la relocalisation, en fait, nous, c'est notre axe principal. C'est qu'effectivement, il faut développer des transports en commun et que tout l'argent de construction des routes, on est à 13 milliards d'euros au niveau national d'argent public. C'est un très grand minimum. On prend énormément de pincettes et c'est sûrement beaucoup plus. Parce que la plupart des études ont été faites il y a 15 ou 20 ans. Du coup, le prix des matières premières et de l'essence a beaucoup augmenté. Tout cet argent pourrait être dirigé vers des transports en commun. Mais surtout, il faut réfléchir à la relocalisation. Ce qui est écologique, c'est les déplacements qu'on n'effectue pas. Et même pour les personnes, c'est une grande violence d'être enfermé dans les embouteillages. Tout le temps, c'est du temps de vie qui est volé. La mobilité, elle est très souvent contrainte. Et du coup, notre idée, ça serait au contraire de redévelopper des activités plus proches et sortir de ce modèle où on est obligé de prendre la voiture pour aller au supermarché, pour aller à l'hôpital, pour aller à son travail, pour aller à l'école. En fait, que tous ces services-là puissent se relocaliser et que ça serait l'occasion aussi de faire des villages qui sont davantage à l'image de leurs habitants.
Oui, et donc vous sortez d'un week-end de mobilisation, c'était le week-end dernier. Comment ça s'est passé? Vous êtes satisfait?
C'était un très beau week-end, on était plus de 1000 sur le tracé. On a pu faire partager en fait un écosystème qui nous est cher, qui est la Garrigue, qui est un trésor écologique. La Garrigue, c'est un des 5 plus précieux écosystèmes du monde. Et surtout, c'est un exemple de pas de symbiose, mais de vie commune entre l'humanité et les non-humains, puisqu'en fait, c'est un endroit anthropisé depuis très longtemps, mais c'est développé dans cet espace-là, au lieu de la destruction qu'on est en train d'y appliquer, une espèce de coévolution qui a créé énormément d'espèces endémiques, d'espèces très précieuses, qui sont très particulières à cette Garrigue. Et du coup, on voulait aussi, nous, se remettre sur cette trace-là de quand les humains étaient capables d'habiter ces territoires sans les détruire, sans les bétonner, mais au contraire, en ayant des interactions positives. Donc on a creusé une mare, on a construit un mur en pierre sèche, on a lié des arbres entre eux, des arbres qui abritent les chauves-souris pour qu'ils ne puissent pas les abattre. Et voilà, et on a présenté à tout le monde notre Garrigue. Donc on est très heureuse de ça.
Et donc maintenant, comment vous allez poursuivre cette lutte contre le lien, donc la liaison intercantonale d'évitement nord de Montpellier?
Alors bon, en fait, il y a pas mal de chantiers, de chantiers de lutte, d'axes de lutte qui courent en ce moment même. Donc il y a un recours juridique qui est en cours sur la question des espèces protégées. Mais au-delà, sur le fond, sur l'intérêt public majeur de ce projet, que nous on considère que ce n'est pas d'intérêt public majeur. Et on a des mobilisations, d'autres dates de mobilisation prévues. Bon, on les dévoilera à ce moment-là. Pour l'instant, on sort juste du week-end. Et on va continuer les réunions publiques et la sensibilisation. Je pense que là, on a atteint une nouvelle étape dans la mobilisation. Des nouveaux collectifs nous ont rejoints, de personnes qui n'étaient pas spécialement sensibilisées à la question écologique. Donc voilà, ça présage de beaux jours de mobilisation devant nous.
Eh bien, merci. Donc, tu l'as dit, vous faites également partie de la coalition des routes. Et il y a aussi un site internet. Bah, déjà, il y a votre site sosoulala.org. Et puis, il y a aussi le site de la déroute de route pour en savoir plus, notamment sur ces dates de mobilisation que tu citais.
Oui, voilà. Les prochaines dates sont donc ce week-end à Castres-Toulouse et ensuite le 25 novembre à Saint-Péray en Ardèche. Et nous, avec la déroute, on propose notre solution commune à la question des routes, c'est qu'on demande un moratoire sur tous les projets routiers.
Oui, tout à fait, c'est la revendication portée par la déroute des routes et on espère qu'elle sera entendue ou au moins que les autorités, les pouvoirs publics ne ferment pas la porte à vos propositions.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on considère que c'est la seule proposition raisonnable. puisqu'en fait, il n'y a pas de petits projets de route, parce qu'il faut toujours les redézoomer sur la carte, c'est-à-dire un projet qui a l'air petit sur un territoire, il faut comprendre quel est son objectif national, c'est-à-dire qu'est-ce qui relie, avec quel projet il s'ajoute. En fait, c'est toute une logique, c'est un réseau, et du coup, le but, c'est de bloquer le réseau à plein d'endroits.
Et du coup, bloquer ce réseau avec un réseau.
C'est ça, nous on fait un contre-réseau, contre-proposition de réseau, beaucoup moins industriel. Mais donc voilà, on demande que tous les projets routiers soient arrêtés, y compris ceux qui sont encore en chemin. Et il y a des pays qui l'ont fait, hein. Le Pays de Galles et les Pays-Bas l'ont fait, et les Pays-Bas, ce n'est pas vraiment des pays gauchistes. Du coup, en fait, c'est parce que c'est la meilleure solution pour maîtriser les gaz à effet de serre, pour maîtriser l'artificialisation qui va ensuite. Donc, et ne pas détruire des puits de carbone. C'est une solution simple et très efficace pour la situation dans laquelle on est.
Eh bien, merci beaucoup, Anna.
Je vous en prie.
Et à bientôt.
Oui, au revoir, merci.
Et maintenant, donc, toujours pour suivre ce voyage dans les projets routiers, on vous laisse avec un extrait de la création sonore Castres-Toulouse, autoroute électrique, logistique et dermocosmétique de Marion Pouessel et Julien Carretero. Julien, qu'on va avoir en interview juste après.
Les oiseaux écrivent des récits. Les choses du monde écrivent des récits. Nous ne sommes pas premiers dans la liste des écrivains de récits. Ce que nous faisons, c'est les reprendre et nous essayons de les articuler.
Tu rêverais de vivre dans un monde de béton et de plastique. Le plastique dans les océans, sur les plages, dans les villes, la sécheresse et le réchauffement climatique, cela ne vous suffit pas ? Vous avez besoin d'une autoroute de plus ?
Rien n'a jamais empêché l'histoire de bifurquer. Et rien ne s'oppose à ce que l'espèce humaine change de narration collective.
Vivace, orchestration de voix vivante et tenace face à la destruction des territoires. Une performance musicale et documentaire enregistrée dans les conditions du direct le 25 mai 2023. Vivace est de retour dans le Tarn sur les chapeaux de roue. Voilà 30 ans qu'un projet d'un autre siècle essaye de sortir des tiroirs des aménageurs d'Occitanie, l'A69, une nouvelle autoroute entre Castres et Toulouse. Longue de 53 km avec un péage prévu autour de 17 euros l'aller-retour, elle avalerait 400 hectares de terres agricoles. Mais tout va bien, puisqu'on nous promet une autoroute électrifiée, durable, verte, voire même vertueuse. Une autoroute de plus pour se déplacer plus vite, plus loin. Mais pourquoi ? Et pour qui ? Vivace, dans le Tarn, autoroute Toulouse-Castres, électrique, logistique et dermocosmétique.
D'abord, bonjour à tous. Merci d'être là pour défendre mon village, notre village. Moi, je suis né dans le village. J'ai fait 44 ans de mairie, j'ai arrêté il y a un an parce que j'étais un peu fatigué. Les maires d'ici, j'en salue quelques-uns, je trouve qu'on n'est pas assez nombreux. On avait fait une contre-étude pour expliquer qu'on pouvait faire autre chose. Qu'en doublant la route, il n'y avait que 80 hectares de terre sur le goudron au lieu de 400. Que ça coûtait 150 fois moins cher. Ça a été jeté, personne n'a voulu étudier ça. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Il y a des élus malheureusement qui n'ont pas tout compris sur ce territoire. Je suis de la même obédience que Carole Delga. Je lui ai dit ce que je pensais. Et malheureusement, elle n'écoute pas parce que... Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, si on veut être élu dans le temps, il faut être pour l'autoroute. Voilà. Il faut continuer à lutter, même si nos chances, je ne suis pas optimiste moi, parce que je crois qu'on nous a menti sur le nombre de véhicules. On nous a dit qu'on allait gagner 35 minutes sur 70 km. Alors il faut acheter des Porsche tous ou de Ferrari, parce que pour gagner ce temps-là, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc voilà, on en est là. Si ce projet, parce qu'il y a plus de 30 ans qu'on en parle, il était peut-être valable il y a 30 ans, je crois qu'aujourd'hui, il est complètement obsolète et qu'il faut penser à autre chose. Thank you.
C'était donc un extrait de la création sonore de Vivas FM Castres-Toulouse, autoroute électrique, logistique et dermocosmétique. Vous êtes toujours dans l'actu sur un plateau sur Radio Larzac et nous sommes au téléphone avec Julien Carretero, donc un des co-auteurs et créateurs sonores de cette création. Bonjour Julien.
Bonjour.
Donc l'extrait qu'on vient d'entendre est tiré d'un ensemble de créations sonores, notamment la dernière. Cet ensemble, vous l'avez appelé Vivas FM et tu le réalises avec Marion Pouessel. Tout d'abord, comment est né ce projet de Vivas FM ?
C'est un projet qui est né de notre relation amicale avec Marion. Voilà, Marion, elle est musicienne et moi, je fais des documentaires radio depuis une dizaine d'années. Et on a collaboré avant sur un autre projet de documentaire qui était un documentaire sur un accouchement à domicile pour lequel elle faisait la musique. Et suite à ça, moi je lui ai proposé cette idée de faire une émission régulière sur des thèmes autour de l'écologie politique et des projets d'aménagement du territoire avec une dimension de création sonore en live. Où voilà, elle joue de la musique en direct et où moi je diffuse des sons pour une partie que j'ai pris moi-même, donc des interviews que je suis allé faire sur le terrain en rencontrant les gens, et pour une autre partie qui sont pris sur internet, des extraits d'archives, de vidéos YouTube ou autres.
Oui, donc effectivement, ces créations sonores ont un commun de porter sur des projets d'aménagement de territoire qui sont contestés aussi. Donc c'est pour ça que ça t'a paru évident en fait de te pencher sur le chantier de la 69.
Oui, notamment, nous on est dans le Tarn, donc autour de entre Lavaur et Gaillac, quoi. Et ça a commencé avec le projet de plateforme logistique à Saint-Sulpice, La Pointe, donc un projet d'aménagement de zone agricole qui devait être bétonné pour faire une plateforme logistique avec des camions et tout. Il y avait des gens qui luttaient contre, c'était juste à côté de chez nous, donc on est allé les voir. Et puis petit à petit, ça s'est élargi et l'idée c'était d'aller voir un peu tout ce genre de projets autour de chez nous dans le Tarn et un peu plus largement puisqu'on en a fait un aussi sur Port-la-Nouvelle dans l'Aude pour le projet d'extension du port. Et du coup l'autoroute, c'est une lutte en cours qui est évidemment assez emblématique de plein de choses et qui se passe aussi de fait juste à côté de chez nous. Ouais.
Oui, et donc tu l'as dit, vous mélangez des sons documentaires pris sur place et ensuite avec une musique. Pourquoi ce mélange? Qu'est-ce que ça apporte à la création finale? Vous voulez faire passer un message à la fois par la parole et par les sons?
Moi, ça fait longtemps que je fais du documentaire radio et je cherche un peu à jouer avec les différentes formes. J'avais envie de quelque chose où il n'y ait pas que de la parole et du blabla, mais aussi une autre dimension à l'écoute, quoi, et apporter cette notion de création sonore. Il y a une autre dimension qui est que c'est pas que des sons qui concernent la lutte en cours dont on parle, mais c'est des sons qui essayent de mettre en perspective, c'est-à-dire qu'on n'a pas que la parole des militants et militantes sur place, qui sont souvent un peu le nez dans le guidon et très accaparé par leur lutte, mais c'est aussi de mettre en perspective sur des sujets plus larges qui rejoignent un peu les projets en question. Et du coup, il y a aussi des lectures de textes, il y a aussi des extraits de gens qui parlent de leurs bouquins, qui peuvent parler là pour le coup sur l'autoroute, ça parle pas mal de logistique globale, d'organisation logistique du monde et tout ça. Et donc, il a essayé de mélanger plusieurs sources de contenu, mais aussi plusieurs formes, et la musique, elle venait aussi appuyer ça, quoi. Et alors, après, l'idée de faire de la création musicale en direct, c'était une richesse à porter, sachant que moi, je suis un peu nul en musique, en vrai. Et du coup, passer du temps à chercher des musiques sur Internet, ça m'intéressait pas beaucoup, et je préférais travailler avec une personne qui crée elle-même sa musique.
Et donc, comment ça se passe, vos créations? Vous partez des enregistrements, de tes enregistrements, et ensuite Marion compose une musique? Ou alors ça vient vraiment en même temps?
Non, c'est plutôt ça. Moi, je propose un sujet avec une trame, déjà en amont. C'est-à-dire que moi, je vais prendre des sons, je vais rencontrer des gens, j'interview des personnes, je cherche des sons sur Internet. et j'extrais de tout ça des petits modules sonores de 1 à 2 minutes que après je mets en forme en bout à bout quoi. Et Marion, je lui transmets ça et elle travaille là-dessus. Et après ensemble on travaille un peu le rythme de l'émission globale sur à quelle place on donne à la musique, à quel moment, à quelle place il y aura plus de parlotes et ça on travaille ensemble pour le coup. Ça se fait un peu dans ce sens-là.
Donc vous serez à Millau le 4 novembre à l'occasion des 20 ans de Radio Larzac. Vous allez jouer vers 20h donc à la salle René Rieu 7 création sonore sur l'autoroute A69. Et vous n'avez pas hésité à choisir celle-là quand je vous ai demandé laquelle vous vouliez jouer. C'est un lien avec l'actualité, j'imagine.
Bah oui, et puis c'est la dernière qu'on a fabriquée. Là, les sons qu'on diffuse dans cette émission, c'est des sons qui ont été pris entre octobre 2022 et avril 2023. Mais ça reste toujours d'actualité, en fait. C'est pas du tout daté, même si ça peut faire un an. Et là, ce week-end, justement, à partir d'après-demain, samedi et dimanche, il y a un gros moment de mobilisation du côté de Castres. Donc c'est encore la lutte, elle est complètement en cours, quoi. Donc ça nous paraissait évident de diffuser cette émission-là, ouais, pour donner écho à cette lutte.
Donc vos créations sont diffusées sur certaines radios, j'imagine, mais vous les jouez aussi en live. Quand vous jouez en live, qu'est-ce qu'on voit sur la scène ? Est-ce que ça ressemble à une émission de radio, à un concert ?
C'est un peu entre les deux. Il y a une table un peu sur scène et puis on est devant la table tous les deux et moi je suis sur mes ordinateurs, Marion avec ses instruments, on est assis derrière la table en fait. Et on joue. C'est très statique, il n'y a pas un gros jeu de scène. Et l'idée c'est plutôt de se concentrer sur le son et d'être à l'écoute que de regarder vraiment visuellement ce qui se passe quoi.
Et c'est quoi pour vous qui est important dans le fait de jouer en live ces créations-là, de les faire vivre au-delà de leur diffusion sur les radios ou sur le net ?
Bah, c'est déjà de les rendre un peu vivantes, ces créations-là, puisque c'est du spectacle vivant, finalement. Et puis d'être au contact direct des gens qui les écoutent, de pouvoir aussi échanger avec elles et eux à la suite. Moi, ça fait des années que je fais de la radio. Avant de faire du documentaire, je faisais aussi de la radio par d'autres moyens. J'ai été animateur, j'ai été technicien. Et j'ai toujours été un peu frustré de ne pas être en contact avec les gens qui écoutaient ce que je diffusais. De pas trop savoir qui écoute et qu'est-ce que ça leur fait. Et du coup, là, c'est l'occasion de rencontrer les gens et de discuter avec eux. Et puis de créer de la discussion autour de ce sujet-là, quoi.
Vous avez déjà eu l'occasion de jouer en live cette création sur l'autoroute ou d'autres ?
Oui, on a joué celle-là une fois déjà.
Et donc les échanges ont été riches après, j'imagine ?
Oui. Et puis encore une fois, cette volonté d'amener d'autres pistes de réflexion autour de là, ce projet d'autoroute. Là, les opposants défendent beaucoup le réaménagement de la route nationale existante. Ils sont en lutte contre un État qui veut rien entendre et des institutions qui veulent rien entendre. Donc tous les sujets de la lutte sont autour de ça. Et là, nous, on amène d'autres choses sur le système logistique général, le système industriel, la mobilité, le déplacement, qui sont des questions qui sont posées plus en toile de fond par les personnes qui luttent et qu'on voit moins de visu. Et du coup, là, ça permet de poser ces questions-là, d'en discuter avec les gens et de parler du monde comme il ne va pas. Et du coup, c'est assez riche, ouais, assez intéressant.
En ce moment, vous avez de nouvelles créations en chantier ou vous allez plutôt jouer celle-là quand vous en avez l'occasion ?
Il y en a une en cours qui sera une deuxième sur l'autoroute, mais pour l'instant, elle est vraiment à l'état d'embryon. Donc, je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle sera réellement créée.
J'ai une dernière question. Vivace, ça fait référence aux plantes vivaces ?
On peut le voir comme ça, ouais. Ça fait référence à la vie, à des gens vivants et tenaces. C'est un peu les deux mots réunis pour moi, vivant et tenace, ça donnait vivace. Et puis c'est un peu ça que vivent les plantes vivaces finalement. Elles se régénèrent perpétuellement, quoi. Et voilà, pour moi, les vivaces, parce que c'est au pluriel, vivace. pour moi, les vivaces, c'est les gens qui sont en lutte contre tous ces projets-là, contre ces logiques mortifères un peu qui nous dirigent.
J'imagine que tu seras sur place donc ce week-end pour glaner des sons.
Eh ben non, parce que je suis pas disponible. Mais j'aurais bien voulu l'être.
Mais il y aura sûrement d'autres mobilisations, je pense. Ce n'est
pas
fini.
Oui, ouais, certainement.
Eh bien, merci Julien.
Eh ben de rien.
Donc on retrouve la création Castres-Toulouse Autoroute électrique, logistique et dermocosmétique du projet Vivace FM en live à Millau le 4 novembre à la salle René-Rieux vers 20h à l'occasion donc des 20 ans de Radio Larzac. On vous attend du coup pour écouter la suite de ce que vous avez entendu et écouté tout à l'heure. Nous sommes toujours dans l'actu sur un plateau sur Radio Larzac. On parle de projets routiers aujourd'hui. Et pour conclure ce tour d'horizon sur la 69, mais aussi on a parlé en début d'émission de la lutte contre le lien, le contournement au nord de Montpellier. On écoute un militant, il s'appelle Paul, et donc il fait partie de la coalition de lutte contre la 69 entre Castres et Toulouse. Et il vous donne rendez-vous ce samedi 21 et dimanche 22 octobre pour une mobilisation contre ce projet. Et on écoute donc ses arguments. Donc nous sommes avec Paul. Bonjour Paul.
Bonjour.
Tu fais partie donc de la coalition de lutte contre le projet de l'A69, l'autoroute qui doit relier Castres à Toulouse. Et vous organisez une mobilisation ce week-end, le 21 et 22 octobre, contre ce projet. Tout d'abord, quelles sont vos revendications par rapport à l'État? Est-ce que vous demandez un moratoire, un arrêt des travaux?
Alors, il y a plusieurs choses. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, moratoire, travaux, etc. La première revendication, c'est vraiment un arrêt des travaux, notamment jusqu'à ce que le jugement sur le fond de l'autorisation environnementale soit abouti, pour qu'on évite de se retrouver dans une situation comme le grand contournement ouest de Strasbourg, par exemple, où l'autoroute, finalement, elle a été construite et, a posteriori, elle a été jugée illégale. Et c'est pas pour autant qu'ils l'ont déconstruite. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec une autoroute illégale dont personne ne voulait. Et nous, on va absolument éviter cette situation à nouveau. Là, on peut plus le permettre dans la situation actuelle avec les enjeux globaux. Alors, on veut vraiment éviter ça. Donc, la première revendication, c'est une suspension immédiate des travaux, le temps du jugement. Et par la suite, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment l'annulation du projet. On n'en veut pas de cette autoroute et d'une proposition des voies alternatives, notamment avec une autre voie. Et également, plus largement, on s'inscrit aussi dans la demande de moratoire de la déroute des routes, qui est vraiment une demande de moratoire sur tous les projets autoroutiers français, tout même les projets routiers majeurs, ça concerne aussi des routes nationales comme la RN 88 aux alentours de Lyon. Et donc ça s'inscrit plus largement dans cette optique-là. Ça a été fait dans certains pays, ça a été fait aux Pays-Bas, ça a été fait au Pays de Galles. On peut se rappeler dans les années 90 en Angleterre aussi, où vraiment la protestation contre les autoroutes en Angleterre a permis de remettre en place tout le plan routier du pays. Donc c'est vraiment une des revendications fortes. Et donc c'est pas, maintenant on n'est plus juste opposé à l'autoroute, ce qui est quand même notre première revendication, mais c'est finalement contre tous les nouveaux projets d'infrastructures autoroutiers de ce genre-là.
Et pour le rappeler, les collectifs opposés, donc tu as cité une autre voie, il y a aussi La Voie est libre, France Nature Environnement, le groupe national de surveillance des arbres, la Confédération Paysanne, ATTAC et l'Union de protection nature et environnement du Tarn. Ces collectifs ont été reçus la semaine dernière par le ministre délégué au transport Clément Beaune le 12 octobre à Paris et aussi le jour d'après à la sous-préfecture du Tarn. Dans les deux occasions, la réponse des autorités a été la même, c'est-à-dire qu'ils veulent mener le projet avec une compensation environnementale. Ils parlent aussi d'électrification routière et des solutions techniques. Donc ils se sont montrés, disons, inflexibles sur votre demande. Comment vous vous sentez après ces deux réunions?
Bah là, la réalité, c'est qu'on se fait... on a tenté le dialogue depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'il y a des dialogues en cours. Et là, vraiment, c'est comme ça a été bien cité dans Libération, c'est un doigt d'honneur à, c'est en l'occurrence 2000 scientifiques, parce qu'en fait, il y a une très large partie de la population qui est opposée à cette autoroute. Et du coup, c'est vraiment un passage en force, une fois de plus, du gouvernement. On en a fait les frais cette année, que ce soit au niveau des bassines, des retraites, de tous les 49.3 qui ont été utilisés. C'est vraiment coûte que coûte, on va faire ce dont on a envie malgré l'opposition populaire. Donc, nous, on s'attendait quand même, à chaque visite, on s'attend à ce que quand même, on n'est pas on va pas les convaincre quoi, avec ces rendez-vous apparemment. C'était des personnes qui mettaient beaucoup d'espoir sur ces réunions, d'autres moins. C'est vrai que celle de vendredi a été vraiment quand même une vaste blague quoi, pour le coup, parce que on invite seulement les élus du tracé, on invite les élus du tracé qu'on veut inviter en plus. Donc vraiment, tout est fait pour que ça les arrange. Donc on n'attend pas grand-chose malheureusement de ces négociations. Et même le gouvernement n'ouvre pas vraiment la porte. On a parlé aussi également avec Carole Delga. On fait face presque à un climato-scepticisme quoi, des scientifiques de renommée nationale, même mondiale, viennent vous expliquer de A à Z pourquoi il ne faut pas faire ce projet d'autoroute et qu'on ne peut pas continuer dans cette direction, et que la présidente de la région répond par des arguments bidons du style « on va mettre des bus à hydrogène de Albi sur l'autoroute », là on s'inquiète vraiment quoi. Donc ça veut dire, si aucune décision, aucune recommandation scientifique ne peut appuyer les décisions politiques, on s'en rend quelque chose de très dangereux. Et ça, c'est pas seulement le cas de l'autoroute, c'est même plus global. Le maire de Toulouse a eu la même réaction en jugeant que les organismes indépendants étaient problématiques pour la démocratie. Donc là, faut s'inquiéter quoi à ce niveau-là.
Oui, d'ailleurs, les partisans de cette autoroute avancent l'argument du désenclavement de Castres et du sud du département du Tarn pour faire avancer ce projet d'autoroute. Ils considèrent que c'est essentiel pour stimuler l'activité économique et sociale de la région, mais cet argument ne tient pas la route, pour rester dans la même métaphore. Vous proposez des solutions alternatives pour ce désenclavement économique, notamment une autre voie proposée, par exemple, de remettre en place des gares à proximité du tracé de l'autoroute, de créer des tracés pour les vélos aussi, et de favoriser l'intermodalité des transports. Mais ces propositions-là aussi ont été refusées.
C'est ça, il y a tout un projet qui a été fait par des personnes localement qui travaillent, donc ils maîtrisent très bien le sujet, qui a été proposé. Et en fait, ces arguments de désenclavement qui sont basés sur des études socio-économiques dont on n'a pas connaissance, on n'a pas accès, on ne sait pas d'où c'est sourcé. Et bon, concernant l'activité économique du coin, il me semble que Fabre, qui est une multinationale qui quand même a très bien fleuri pendant toutes ces dernières années, s'en est très bien sorti. Donc il n'y a pas vraiment une problématique de ce côté-là. Il y a d'ailleurs énormément pas mal de chefs d'entreprise qui en fait sont contre cette autoroute. Donc finalement, c'est vraiment un passage en force en plus. Et ce qui est bien avec une autre voie, c'est qu'en fait, on propose une alternative qui pense en dehors de ce qu'on fait habituellement. Et donc vraiment, c'est de revaloriser nos territoires, de revaloriser l'humain et aussi le bien-être humain au sein de nos territoires. Donc on sort de cette logique économique industrielle et on revient sur l'humain et sur le bien-être.
Pour entrer dans le vif du sujet de la mobilisation, elle a pris de l'ampleur et va davantage s'intensifier ce samedi et dimanche 21 et 22 octobre avec un week-end de manifestations sur place. Elle a été aussi très médiatisée à travers les grèves de la faim de Thomas Braille et d'autres militantes et militants. D'abord, comment vous allez en tant que militant aujourd'hui? Je ne sais pas si toi aussi t'as été en grève de la faim, mais voilà, c'est une grève de la faim qui dure pour certaines depuis plus d'un mois.
Alors, moi, j'ai pas été personnellement en grève de la faim, mais on a soutenu les personnes qui ont pris cette initiative. Effectivement, ça a apporté un énorme coup médiatique, notamment avec Thomas Braille, qui allait sur Paris. Donc, ça a permis de nationaliser fortement la lutte. Et ça a permis aussi d'engager un semblant de dialogue avec le gouvernement. Là, les personnes qui étaient en grève de la faim ou de la soif ont arrêté. Donc, sont en train de se remettre sur pied. Ça a été quand même un moment assez difficile, mais qui a fait preuve d'une très grande solidarité, même à travers tout le pays. Il y a des personnes qui ont fait des jeunes solidaires, qui ont vraiment soutenu, qui ont eu de la force de partout. Là, actuellement, on tourne un petit peu la page des grèves de la faim pour aller sur la suite, quoi. Ce sera pas le dernier jalon de la résistance contre cette autoroute, donc on compte pas s'arrêter là. Notamment du coup avec la mobilisation de ce week-end, à l'appel des soulèvements de la terre, on espère avoir énormément de personnes.
Oui, justement, qu'est-ce que vous attendez de la mobilisation de ce week-end?
L'idée, c'est vraiment qu'ils ont une mobilisation populaire puissante et de vraiment montrer que cette autoroute, finalement, elle passera pas quoi. Là, on est encore une fois, on montre le passage en force du gouvernement Et il est vraiment temps qu'on arrête en fait cette politique qui continue depuis maintenant presque l'ère Macron, quoi, j'ai envie de dire. Donc il est vraiment temps là qu'on mette un frein à ces chantiers.
Et comment vous comptez poursuivre la lutte? Quel impact, d'après vous, aura une manifestation citoyenne d'ampleur comme celle que vous espérez pour ce week-end?
L'idée, c'est de continuer la mobilisation par tous les moyens possibles. Il y a encore énormément d'options, il y a encore des recours juridiques qui sont en cours. Donc vraiment, la lutte n'est absolument pas terminée. Notamment, on peut parler aussi de... C'est un argument qui est utilisé par les pro-autoroutes, c'est que le chantier est, soi-disant, tellement avancé. Donc, ils avancent un chiffre de 36%. Dans les faits, ce n'est pas autant. Pour l'instant, ils ont surtout coupé quelques arbres et aplati la terre. Donc, des choses qui ne sont pas irréversibles. Il est encore temps de sauver la majorité du territoire. Et en plus de ça, c'est 36% par rapport à l'autoroute en elle-même. Sauf qu'une autoroute, on sait très bien ce que ça amène. Ça amène une industrie, ça amène la construction d'usines, de zones de logistique. Et donc, ça, c'est des terres qui vont être artificialisées en plus. Donc, ça veut dire que... En plus, cette autoroute, on ne se bat pas pour 400 hectares, là, on se bat pour bien plus. Donc, c'est cet avancement qui est proposé par le gouvernement, il ne tient pas la route. Donc, il est encore temps de stopper le projet, et ce serait même un geste très... Enfin, c'est mieux pour eux qu'ils arrêtent dès maintenant, quoi. On en sera plus reconnaissant.
Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des arguments économiques contre cette autoroute. Par exemple, le fait que les prévisions envisagent 17 euros pour un aller-retour de péage. Et donc, voilà, c'est une autoroute qui va coûter très cher et qui, d'ailleurs, coûte 450 millions d'euros, dont 23 millions d'argent public.
Il y a déjà un énorme coût. Le péage va être à 17 euros l'aller-retour, ce qui est énorme. Ça en ferait l'autoroute la plus chère de France pour un trajet plus court. C'est certain que les habitants et les habitantes du Tarn, pour beaucoup, ne pourront pas se permettre de prendre cette autoroute, malgré les propositions de réduction qui sont si vous avez une voiture électrique, sauf que déjà, si vous avez une voiture électrique, c'est que vous pouvez vous le permettre. Donc on est sur un projet vraiment antisocial. On appelle souvent l'autoroute des riches par les riches pour les riches. On l'appelle aussi l'autoroute de Pierre Fabre, parce que Pierre Fabre a énormément poussé pour cette autoroute, pour pouvoir avoir des transports de flux logistiques. Et donc les camions, le péage, ce sera 40 euros pour l'aller-retour pour les camions. Donc c'est encore plus cher. En plus de ça, Pierre Fabre maintenant a ses dépôts à Toulouse. Donc du coup, n'a plus d'intérêt à avoir autant de camions qui passent dans le Tarn. Et même les employés de Pierre Fabre eux-mêmes disent que eux ne prendront pas cette autoroute parce qu'elle sera trop chère pour eux. Donc on est sur une autoroute qui ne sert strictement à rien, qui ne bénéficie à personne à part aux porteurs de ce projet. Donc, pour le coup, on est vraiment sur un projet antisocial et anti-écologique.
Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Paul. Est-ce que tu veux ajouter des choses pour donner rendez-vous ce week-end aux citoyennes et citoyens qui voudront se mobiliser?
Eh bien, on espère voir nombreux et nombreuses venues de toute la France entière. Ce serait génial. Ce sera une manifestation haute en couleurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir. On aura... les équipes, tout est donné comme information sur Telegram, également sur nos réseaux sociaux, donc La Voix est libre, XR Toulouse et Le Glam. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez venir avec les enfants également, il y aura une garderie. Donc on espère vous voir nombreux, nombreuses pour dire non à la 69.
Merci beaucoup. C'était donc l'interview de Paul, militant de la coalition contre le projet d'autoroute A69. Je rappelle les autres collectifs en lutte qui vous donnent rendez-vous ce samedi 21 et dimanche 22 octobre pour une mobilisation contre donc l'A69 entre Castres et Toulouse. C'est La Voix est libre, France Nature Environnement, le groupe national de surveillance des arbres, la Confédération Paysanne, ATTAC et l'Union Protection Nature Environnement du Tarn. Et pour plus d'infos, vous pouvez aussi visiter le site de la Coalition nationale pour une moratoire des projets routiers, c'est laderoutesdesroutes.com. Et il y a aussi une émission du média Le Moment, c'est Le Moment sur l'A69. Cette émission, quant à elle, touche à sa fin. C'était l'actu sur un plateau sur Radio Larzac. Merci à toutes et toutes les invitées d'aujourd'hui. Donc Anna du collectif SOS Oulala à Montpellier, Julien pour Vivace FM et Paul pour la coalition donc, contre l'A69. Merci à Julia pour sa chronique. Et merci à Nico à la technique. Cette émission est rediffusée le vendredi à 19h et elle sera très bientôt un podcast sur radiolarzac.org. J'en profite pour vous rappeler aussi le rendez-vous le 4 novembre à la salle René Rieu à Millau pour fêter les 20 ans de Radio Larzac. Et là aussi, vous pouvez trouver tout le programme et plus d'infos sur notre site radiolarzac.org. Très belle continuation à vous sur Radio Larzac.